Bonjour à tous et à toutes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de podcast Hockey. Nouvelle saison, mais même équipe, donc on vous retrouve messieurs Jean-François Jourdain et Paul Moreau. Bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour. Boris Devard. C'est la sixième saison de podcast déjà, pour ceux qui auraient perdu le fil.
C'est pas bien de dire ça.
Pourquoi?
Ça me donne l'impression de vieillir.
Peut-être bien, mais si vous trouvez un élixir pour rajeunir, je suis preneur, Paul.
Ça va.
Donc sixième saison, mais les cadres sont toujours là en votre personne, messieurs. Donc on va tout de suite aborder la DH homme et déjà cette bonne surprise du Bear Scott qui a connu les difficultés l'année passée et qui, cette saison, semble bien parti.
Oui, comme quoi, d'une saison à l'autre, ça n'est pas vraiment une question d'addition et de soustraction. L'an dernier, le B avait déjà eu pas mal de problèmes, s'en était tiré que de justesse en barrage et avait perdu dans l'entre-saison Gilles Verdussen qui a quand même été international, qui a eu même ce niveau-là, et Philippe Gueulbert qui depuis 20 ans faisait la pluie et le beau temps dans l'équipe. Après avoir déjà dû faire une croix définitive sur John Gueulbert, tout ça n'annonçait rien de bon. Et ben au contraire, ça se passe très bien. Mettons que jusqu'ici, il n'y a qu'une seule, de leur propre aveu, une seule rencontre où ils ont vraiment dominé, c'est à la Gantoise. Ils ont gagné 3-2. Et tous les autres matchs, c'était des matchs très disputés où finalement ils ont tiré le bon bout. Ouais. Et le mérite en vient quand même certainement à Denis Dijkshoorn qui a réussi à faire éclore des tas de jeunes. Et aussi à une excellente politique de transfert parce que les joueurs qui sont venus, personne ne les connaissait en Belgique, mais apparemment ils s'intègrent très bien dans le groupe et ce sont des renforts, pas seulement des transferts. Ouais.
Paul,
10 points sur 12, donc ouais, c'est pas 10 mal. Points sur
12. Une surprise ou...
J'aurais pas cru.
Ouais. Hein.
Non, mais je crois que c'est surtout les transferts et aussi une politique, on va dire, à long terme. Et en plus, c'est quand même l'éclosion aussi de Doquier, qui est importante aussi. Ça apporte
le garçon. Celui-là, il fallait le garder, hein, ça c'est sûr.
Mais c'est ça. Donc, faut bien dire compte de ça. Je crois que c'est ça qui fait la différence. C'est l'éclosion de Doquier qui apporte quand même beaucoup.
Hein. Ouais. Ok, qu'il a fallu réussir à garder, donc justement. Et...
Voilà, malgré les sirènes qui venaient entre autres de Eindhoven.
Ouais.
Et auxquelles il pourrait d'ailleurs ne pas résister la saison prochaine.
Hein. Ça, oui, mais ça,
qui
c'est...
vivra, verra. Nous ne sommes pas là pour vaticiner.
Non,
donc, c'est ça.
On verra bien.
Ça, c'est le nouveau. C'est l'évolution du hockey. Ça, maintenant, on verra bien après. Ouais. Cette année-ci, on sait qu'on a telle équipe. L'année prochaine, on verra bien.
Voilà.
Et donc, comme la saison passée, le championnat est parti sur un rythme infernal avec 4 journées en 10 jours et. Et c'est pas encore fini.
C'est franchement infernal, oui. Surtout les matchs du vendredi soir. Parce que là, il y a des embouteillages sur les routes. Pour arriver à l'Antwerp un vendredi soir, il faut pratiquement prendre une demi-journée de congé. Ce n'est pas possible pour tout le monde, évidemment. Bon, nous on essaie de suivre tant bien que mal, mais c'est pas toujours évident non plus, vu que les stades de hockey, c'est pas comme les stades de foot, il y a pas de tribune de presse, il y a pas de wifi, il y a souvent même pas une prise électrique, donc on fait de son mieux, on y arrive toujours.
Ne vous plaignez pas de la prise électrique, dans tous les bars il y a des prises électriques.
Oui mais les bars ne sont pas exactement à côté des terrains non plus, donc...
les comptes rendus seraient très approximatifs,
plutôt,
si on devait les faire du bar.
La question déjà par toi.
Ça irait, et puis la deuxième, ce serait,
voilà. Ouais.
Quant à la troisième, inutile de préciser.
Ah bah alors.
Et c'est pas fini puisque ce vendredi, il y a un match avancé, Léo Dragon, un match qui est déjà relativement intéressant puisque le Léo a jusqu'ici 6 sur 6 mais s'exporte plutôt mal. Et le Dragon, quant à lui, a déjà été surpris au Brexgeta. Mais si le Léo perd ce match-là, il se retrouvera quand même déjà relativement largué.
Ouais.
Les points sont chers pour tout le monde.
Mais donc oui, le Léo joue à domicile et n'a pas encore perdu.
Voilà. Jusqu'ici, il n'a fait que des scores de tennis.
Ouais.
6-1 contre le Dering, 6-4 contre Namur. Parlons-en de Namur. Hein. Surprenant ces escargots.
Oui, mais
on savait que les escargots,
stop,
vous les connaissez bien les escargots. Un escargot, par définition, c'est résistant. Hein. Quand vous le mâchez, vous ne l'avalez pas après la première bouchée. Et il faut bien dire que pour une équipe qui a 0 points, elle se défend quand même vraiment pas mal du tout, puisque elle n'a perdu qu'une seule fois sur un gros score. Et le résultat, malgré que souvent en cours de match c'est 4-1, 5-1 pour l'adversaire, ils se battent jusqu'au bout et ils arrivent à donner encore au score une belle apparence. Bon, si ça continue comme ça, je pense qu'ils ne termineront pas la saison avec 0 points. Je prends les paris, mais il y a déjà des gens qui sont venus chez moi pour le faire. Autant dire que je compte un petit peu sur les escargots pour se remuer un peu et prendre des points. Ouais. Paul, vous semblez très dubitatif, ce que nos auditeurs ne voient pas, évidemment.
Mais je crois qu'ils ont eu un programme très difficile, donc ils ont pris toutes les grosses équipes. Après, on verra. Après, on verra. J'espère pour eux que ça va bien marcher, mais on verra. Donc, je ne vais rien dire, parce que sinon, je vais encore me faire critiquer. Donc, je ne vais rien dire sur Namur.
Mais Paul, vous n'avez quand même pas peur d'être critiqué. Vous êtes critiqué depuis 6 ans. Vous êtes toujours là.
Non, mais il y a un début. Au début, il faut être calme. Il faut toujours être calme. Non, mais je crois qu'ils font un bon début de saison. Avec l'effectif qu'ils ont, ils font un très bon début de saison. Bon, maintenant, après, il y a un gros problème qui est le problème de la division d'en dessous. La division 1 d'en dessous qui est trop faible. L'écart est trop grand. Donc,
il est devenu trop grand, oui.
Il est devenu trop grand. Donc, si les clubs n'ont pas une politique vraiment étudiée, précise, et dire voilà, ça c'est l'objectif, c'est fini. Vous ne savez plus monter. Regardez la Gantoise, le même problème. Ça sert à rien de monter, c'est pour redescendre aussi vite. Ou alors, il faut beaucoup d'argent. Où il faut avoir une politique vraiment de dire voilà, on joue offensivement en 1, on essaye de progresser et dès qu'on est prêt, qu'on vraiment surclasse la 1 avec notre noyau, à ce moment-là, on prend 3-4 types. Mais il faut garder ces jeunes parce que bon, maintenant Laurie est en train de jouer d'une façon dépassée, je le dis aujourd'hui déjà. Ils vont avec ce système-là en division d'honneur, ils sont nouveaux.
Ça va faire pif paf pouf.
Ouais, pif paf pouf parce que ils attendent le penalty. Vous imaginez? Et ils viennent de monter il y a 2 ans de cette façon-là en attendant le penalty. Ils ont vu que ça marchait pas. La 3e saison, on refait la même chose. On attend le penalty pour gagner le match. Donc, malheureusement, en division d'honneur, les gardiens sont meilleurs, nettement meilleurs, parce que c'est déjà le premier problème. Le PC va pas rentrer.
Et en outre, on va en obtenir moins, parce que
on obtiendra moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on comprend pas. On dit, on a eu 12 PC, on n'a pas marqué. Mais ça fait pas ça le hockey. Il faut les marquer. Bon, c'est comme ça. Et je crois que les clubs doivent plus réfléchir à des stratégies. Mais bon, et savoir si on veut monter, à quoi ça sert. C'est comme les gens de la Gantoise l'année passée quand on leur disait avec l'équipe que vous avez montée, ça ne sert à rien. Ou aussi, on va avoir l'un ou l'autre qui va venir et ça va aller.
Mais les Sud-Africains.
Mais même des Belges, il y en a un ou deux Belges qui sont allés, mais ça ne servait à rien. Un ou deux, c'était pas suffisant, il en fallait 9.
Mais bon, ils ont transféré 10, hein.
Ouais, 10.
Mais pas rien que des Belges et des Sud-Africains.
Voilà, c'est ça. Mais il y a transfert, hein, parce que on peut aller en chercher en division 4 aussi, hein.
Transfert ne veut pas dire renfort.
Ouais. Mais voilà, c'est ça. Des renforts. Moi, je parle transfert, ça doit être un renfort. Ça va? Et alors, quand je parle d'un bon étranger, ça doit être un international. Voilà.
Vous êtes déjà allé voir Namur cette saison-ci?
Non. Pas encore.
Ça ne serait tardé.
Non, je ne crois pas que je vais aller voir.
Mais il a peur des critiques.
Non, pas du tout. Mais je suis en relation permanente avec Vitaly, vu qu'il vient entraîner à la Rasante tous les jeudis. Et donc, je discute avec lui, donc je sais suffisamment sur Namur.
On va passer d'une extrémité à l'autre. On était en bas de tableau. Là, on va repasser en haut avec le Wadox qui est reparti en boulet de canon. Là.
Malgré une pléthore de blessés, hein, dont des blessés quand même importants, comme Maxime Leux. Ça prouve que les Canards ont quand même un petit peu de répondants dans leur vivier. Hein. Il y a des petits jeunes que personne n'attendait à ce niveau, qui en profitent pour jouer de temps en temps, 5 minutes, 10 minutes. Ça oblige les titulaires à rester un petit peu plus longtemps sur le terrain, mais jusqu'ici, tout se passe bien. Je les ai vus la semaine dernière contre le Dering. Bon, c'est une victoire un petit peu à la régulière, avec sans doute un arbitrage pas très favorable au Dering, qui a pratiquement dû jouer toute la deuxième mi-temps avec en infériorité numérique suite à des cartes jaunes. Enfin bon, ça, tout ça c'est une question d'interprétation arbitrale, comme toujours. Et bon, moi je dis une chose, c'est que quand on commence déjà à pleurer après 30 secondes, il faut pas s'étonner si on a les arbitres contre soi. C'est humain. Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, cela dit, c'est vrai, si le Dering menait à la mi-temps, personne n'avait rien à dire. Et puis en deuxième mi-temps, par contre, Van Aanh n'a pas touché la balle. Donc, ouais. Littéralement pas touché la balle. Donc voilà, on ne peut pas contester le succès de Waterloo, même s'il a un petit goût amer pour le Dering. Le Dering qui se retrouve d'ailleurs
on
avec...
On va parler voilà, justement voilà. Du Dering, qu'on attendait peut-être un peu plus haut. Bon, un calendrier aussi difficile.
On savait que ce calendrier du Dering était limite infernal, avec déjà 3 déplacements en 4 matchs. Un match d'ouverture au Léo en reprise, où ils ont sans doute été un peu trop offensifs, se sont énervés en étant menés à la marque et ont finalement pris un score fleuve. Un match que j'ai vu personnellement contre Louvain, où ils ont pas mal joué, mais bon, Louvain c'est aussi une bonne équipe. Un match à l'Antwerp où ils se sont retrouvés menés 2-0 après quelques minutes et ils ont quand même réussi à encore mener. Et puis finalement, ce match à Waterloo qu'on vient de raconter. Donc, oui, bon, jusqu'ici ça ne tourne pas. C'est clair, mais la qualité technique est quand même là dans l'équipe.
Oui,
c'est une équipe qui se bat, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas une équipe qui laisse aller la barque. Donc on peut s'espérer pour elle qu'à un moment donné, elle va commencer à prendre des points. Cela dit, les prochains matchs ne sont pas faciles non plus. Ils reçoivent le Dragon et puis ils vont au Racing. Après ça, ils auront mangé tous les plats indigestes. Ils pourront commencer à faire des points beaucoup plus facilement, sans doute. Mais en attendant, il faut passer par là et ça influe évidemment sur le moral.
Surtout une équipe qui prétend quand même vouloir accéder au play-off, doit gagner aussi ce genre de match.
C'est tout à fait normal qu'elle vise le play-off. Ouais. Hein. Personne ne comprendrait qu'elle annonce qu'elle veut éviter la 10e place. Hein.
Paul de Dering, vrai candidat au play-off ?
Certainement candidat, mais quand on encaisse autant de goals...
C'est le problème aussi. C'est
ça devient difficile. Hein,
le Dering a perdu toute la ligne arrière de l'an dernier. Hein. Donc il faut reconstituer une défense.
Oui, mais attendez.
Et c'est pas évident.
Oui, mais on va dire des transferts parce qu'on ne peut pas dire ça. Ça ne c'est pas un mot adapté. Mais quand on cherche des renforts et qu'on sait que sa ligne arrière part, la première chose qu'on fait, on essaie de trouver 4 arrières si les 4 sont partis. Mmh. Des bons. En disant, voilà, au moins j'ai commencé sur une base. Si on se dit, techniquement c'est bon, mais c'est tout des offensifs et qu'on ne sait pas défendre, ce sera toutes les semaines des scores de tennis. Mais on sera quand même battu. Donc, je crois que c'est un choix de politique, ça. Hein. Il faut acheter ce qu'on a besoin.
Enrique est quand même le leader de l'équipe d'Espagne.
Ouais. Oui, mais bon. Il faut croire que ça ne marche pas. Hein.
C'est vrai que.
Mais s'il est tout seul,
on
le pauvre.
On ne peut pas tenir une défense.
Tout seul, c'est quand même difficile. Hein. Parce que c'est facile de dire, je vais prendre vous savez, on pourrait prendre le meilleur joueur du monde, Jimmy Dwyer, et on le fait jouer avec la rasante. Contre une équipe de division d'honneur.
Ce serait amusant, ça.
Je ne serais pas certain qu'on gagne. Hein. Mais je suis presque persuadé qu'on va perdre. Mais c'est ça aussi. Hein. Donc, il faut être réaliste. Je crois que c'est... Pour les dirigeants, c'est plus difficile. Et pour les entraîneurs et pour tout le monde, pour le staff technique, acheter ou transférer ou demander un renfort, il faut un bon renfort qui convient à l'équipe. Et c'est plus difficile. Regardons dans les autres sports. Voyons les transferts qui se font, avec les millions qui tournent, tous les transferts ne sont pas toujours réussis. Hein. Et ça serait trop beau quand tous les transferts réussissent et que le type arrive dans un club et qu'il soit le meilleur, qu'il joue bien. Ça serait trop beau, ça. Il va falloir s'adapter.
On va fermer le chapitre DH ici, je propose, et on va continuer avec l'AD1, donc où on abordait tout à l'heure...
C'est une excellente transition, Boris.
On parlait de Loré aussi, du système de jeu de Loré qui n'était pas optimal selon Paul, mais Loré, si je ne me trompe pas,
champions, c'est pas ça le problème.
Loré a commencé par un 9 sur 9 en ayant 3 matchs difficiles.
Oui, mais ils seront champions, c'est pas ça le problème.
Et ils ont gagné tous leurs matchs par 2 ou 3 buts d'écart.
Non, mais c'est pas ça. Ouais. Attendez, mais il faut bien se dire qu'ils ont Facundo aussi. Hein.
Ouais.
Donc, ils ont 2 joueurs qui peuvent jouer n'importe où en division d'honneur.
Berimer et Caglioni.
Oui. N'importe où. Et ils ont encore des autres, des jeunes, l'un ou l'autre jeune, comme Masso qui pourrait les jouer. Donc c'est pas ça. Mais à eux trois, ils savent pas jouer contre une équipe d'honneur.
Mmh.
Donc c'est ça que je veux mettre en honneur. Champions, ils seront. Mais ça, je l'ai dit avant que le championnat commence. Champions, ils seront.
Comment est-ce qu'on parvient à attirer un joueur comme Facundo, à garder un joueur comme Bergner quand...
Il faut demander ça à Marcelo Orlando.
Non, mais c'est... Je ne dirai pas.
Je sais tout, mais je ne dirai rien.
Langue de bois.
Ces questions, bah bon... Tout a un prix.
Voilà. Tout a un prix. Sans doute pas en le rémunérant en œuf de Pâques. Hein.
C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. On garde tout le monde si on veut. Hein.
Et donc, dans cette division 1, le deuxième descendant, a pas trop mal commencé non plus.
Bah, le pingouin s'est juste incliné contre le cours du jeu d'ailleurs, chez lui contre l'heureux. Mais voilà, je pense que ça, néanmoins, c'est une équipe qui est mieux placée pour remonter que ne le serait sans doute le Wellington. Et tous les autres, ils ne jouent pas pour la montée. Hein.
Mais non.
Ni techniquement, le Léo 3 et le Racing 3 qui ne pourront pas monter, ni les autres équipes qui n'ont simplement pas assez de contenu. Hein.
Mais c'est la même chose, le Pingouin.
La Rasante est actuellement deuxième, mais c'est grâce à un forfait contre le Racing, alors que le match avait été perdu sur le terrain.
Oui, oui.
Donc, tout cela n'est qu'un phénomène saisonnier.
Ouais.
C'est la même chose avec le Pingouin. Les Braves, ils ont perdu 4 joueurs.
Mm-hmm.
S'ils montent,
ben, ils vont devoir en retrouver au moins 4.
Oui, mais ces 4-là, ils ne reviendront pas. Ils sont dans des clubs où ils jouent Euroleague.
Ah, c'est clair que Nicolas Van Dist, par exemple, il casse la baraque avec Waterloo.
Voilà, donc, il va rester là, il va pas revenir. Donc, il faut déjà en trouver. Ils étaient déjà trop faibles en division d'honneur avant. Ils doivent déjà en trouver, on va dire, 6 de niveau international.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, plus de montée, plus de descente.
Si, mais
on condamne
les
clubs
jusqu'à
la fin des temps, rester en D1.
Non, mais le problème, les clubs doivent réfléchir. Si on va maintenant Namur et la Gantoise, s'ils redescendent, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont le mouvement éternel, donc.
Voilà. Nous avons maintenant créé une division spéciale pour clubs ascenseurs.
C'est ça.
Entrée illimitée.
Non, c'est pas entrée illimitée. Tout le monde peut y aller. Hein?
Oui. Là-bas. Est-ce que tout le monde veut y aller maintenant?
Je ne pense pas.
Non.
Non, mais personne.
Ce n'est pas très confortable.
Voilà.
Non, c'est ça. Hein. Parce qu'après, la saison prochaine, il faut voir les joueurs qui vont quitter Namur, ceux qui vont quitter la Gantoise pour rester en honneur. Donc, on recommence nouveau plus bas et on fait nouveau un petit tour.
Ouais.
Bon, c'est un autre débat, c'est en fin de saison, ça.
Et donc là, les promus en D1, le White Star qui est toujours à 0 points. Par contre, là, le Racing qui a déjà 3 points.
Mais le Racing, il aurait dû en avoir 6.
Ouais.
Le Racing sera une bonne équipe de division 1.
Ouais.
Une bonne équipe de division 1. Une équipe de division 1. Les deux autres, je connais pas encore. L'Indiana aussi.
Indiana, ouais.
Et le White Star aussi. Mais bon, tout dépendra un peu.
C'est une division panier de crabe par excellence. Hein.
C'est ça.
Tout le monde peut battre tout le monde.
Vous gagnez 3 fois et vous avez
6 blessés, vous terminez dans le fond du panier.
C'est ça. Et vous descendez parce que vous avez 6 blessés. Donc c'est très difficile. Dès qu'il y a 2 blessés dans les noyaux, c'est difficile.
Mmh. Plus imprévisible en tout cas.
Tout est imprévisible.
Ouais. Mmh. C'est peut-être ça qui fait le charme de la division 1 et que certains clubs s'y sentent bien finalement.
Oui. Notamment le Langeveld, qui surprend tout le monde.
Oui, mais c'est une bonne division, on s'amuse, et ça n'a pas la pression de division d'honneur, ça il faut laisser.
Voilà, et en plus maintenant il n'y a plus de barrage, hein. Rappelons-le, c'est officiel.
Ah oui.
J'ai quand même eu un avis de Jean-Christophe Capel dimanche dernier. Il prétend qu'il l'a déjà mis sur le site de la RBH, mais personne ne l'a
trouvé. J'ai pas vu ça non plus, non.
Si, on le savait.
Bon, certains le savaient. Ah. Je vous dis que tout le monde ne le savait pas. Donc, autant de faire un peu de pub. Quand je vois Xavier Reckinger en interview avec notre excellent confrère Thibaut Vignet, qui le Braxata voudrait éviter les barrages. Ben oui, il faut lui répondre. Il n'y a plus de barrage, vous avez. Il y a une descente directe, mais enfin ça, je pense que le Brexit pourra y échapper assez facilement.
Et donc exactement quel est le nouveau format alors?
Eh bien, il n'y a plus de barrage. Les deux premiers montent, les deux derniers descendent.
Ok. Oui, c'est vrai que ces barrages étaient un peu...
logique.
Ben, une seule fois, le Wellington en a profité pour battre les Raclès à l'issue de deux matchs un petit peu fous avec des scores de tennis, mais voilà.
Ouais.
Le résultat, c'était...
Donc c'est peut-être
ça obligé, surtout avec le calendrier actuel de la DH, ça obligeait la D1 à suivre le rythme alors qu'elle n'a précisément pas du tout envie de se faire. Les doubles week-ends, les nocturnes, tout ça, c'est pas vraiment un truc pour la D1, c'est normal.
On va passer aux dames, la division d'honneur. Où là c'est l'Antwerp qui est seul en tête et où les promus ont également la vie dure.
Mais est-ce que l'Antwerp n'est pas justement championne en titre? Donc, c'est pas vraiment une grosse surprise.
Non.
Qu'est-ce qui est vraiment à signaler là-dedans?
Il n'y a rien d'anormal, hein?
Oui. Sauf que le Pingouin, le Wellington deuxième, c'est aussi une équipe qui est habituée au
Le Pingouin qui fait un bon début.
Le Pingouin, oui.
Pingouin, mais tout le reste
déjà l'an dernier, le Pingouin avait fait une bonne saison.
Il y a 2 ans, ils avaient une très bonne saison.
C'était il y a 2 ans.
Oui, la saison passée était moyenne. Maintenant, cette année-ci, ils ont fait un très bon départ. Hein. Mais vous voyez, la même chose, Birskot, Rasante.
Ouais.
se trouve là avec 19 goals encaissés, 18 à marquer, 0 lot. Pas facile, hein?
Ouais.
C'est pas facile. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore créé, je crois, en dessous, une division ou des équipes. Les gens qui sont là, des équipes d'élite,
ouais.
Ils veulent dire, voilà, nous, on s'entraîne comme on est en division d'honneur et on veut, c'est l'élite. Et si tu ne viens pas trois fois à l'entraînement, si on ne fait pas ça, c'est ça. Mais bon, si on n'est pas dans ce système-là, ça ne sert à rien de monter. Tout le restant, c'est des chipotages.
Et donc, de manière plus générale, on peut dire que le championnat dames est quand même un peu à la traîne par rapport à, point de vue du niveau général, par rapport aux messieurs.
Non, ça on peut plus dire, ça on peut plus dire. Ça, je suis pas d'accord parce que quand on va maintenant au niveau international, quand on voit les dames, le niveau de l'équipe nationale belge, c'est excellent. Maintenant, ça a progressé, ça progresse. Non, le niveau augmente. Mais le problème, c'est qu'en dessous, ça n'augmente pas parce que, on va dire, si je prends l'exemple de la rasante, l'équipe première de la rasante s'entraîne sur un demi-terrain. Donc, il faut dire à certains types, il faut rester à la maison parce que sinon, on va pas s'en... Donc, c'est ça. Les conditions ne sont pas mises pour arriver en honneur. C'est ça, alors. Et si demain, ces équipes montent, que ce soit la rasante, n'importe quelle équipe, ils montent, ils sont surpris parce qu'ils se disent maintenant, on peut plus se permettre. Quand on voit les conditions d'entraînement de Namur, c'est une catastrophe, hein. Ils s'entraînent à gauche, ils vont jouer à droite pour avoir un terrain mouillé, ils doivent rester à Namur sur un terrain qui... Donc c'est pas possible de d'arriver à l'élite comme ça. Quand on va pendant ce temps, il y a d'autres clubs ici qui s'entraînent déjà 4 fois par semaine, qui vont faire des stages et tout ça. Donc il y a des vitesses.
C'est le pot de terre et le pot de feu.
Oui, c'est ça. Il y a des vitesses. Il y en a qui roulent en deux chevaux, il y en a qui roulent en Ferrari presque. Donc c'est ça.
Et à moins d'avoir une quadruple crevaison, c'est la Ferrari qui va gagner.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et même, le service technique va arriver plus vite que la deux chevaux. C'est ça. Donc, moi, je crois que c'est ça. C'est à réfléchir. Est-ce qu'il ne faut pas diminuer le nombre d'équipes et tout ça? Ça, c'est un autre problème.
C'est un débat que nous avons déjà eu à cette antenne.
Et surtout pas maintenant. On arrive à la fin de cette première émission. Messieurs, un grand merci. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
C'est quand dans 15 jours?
Mais on va essayer de faire ça.